Pour rappel, la CDAO avait créé en 1990 l'ECOMOG, une force armée multilatérale ouest-africaine, pour intervenir dans la guerre civile au Libéria. Cette force permettait à plusieurs armées nationales de travailler ensemble.
Merci beaucoup, Ginny. Et à présent, notre débat sur cette question. À Bamako, nous avons Ali Tunkara. Ali Tunkara, vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Et à Paris, en duplex, Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à vous deux. Alors, je démarre avec vous, Niagale. Pourquoi une force régionale, alors qu'on a le G5 qui est pratiquement au point mort? Qu'est-ce qui pourrait justifier sa création dans le contexte actuel?
Alors, je pense qu'il est effectivement très important de rappeler quels sont les mécanismes existants. Il existe d'ores et déjà au sein de la CDEAO une force africaine en attente qui est d'ailleurs intervenue par le passé, notamment en Guinée-Bissau, qui est toujours présente en Gambie. Et c'est ce mécanisme donc de la FAC, selon le sigle que l'on utilise, qui fait partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité instaurée au niveau continental, qui est censée intervenir dans les situations conflictuelles selon le mécanisme établi en 1999. Votre reportage parlait de l'ECOMOG. En réalité, cette FAC est l'institutionnalisation de cette ECOMOG. Mais il y a une ambiguïté dans le communiqué final du sommet ordinaire, c'est-à-dire qu'on parle très clairement de la mobilisation de la FAC dans la lutte contre le terrorisme, et c'est à ce titre que le comité des chefs d'état-major est sollicité pour définir des plans d'intervention, comme il avait fait en 2012, mais le communiqué parle également de la création d'une force qui serait habilitée à intervenir en cas de modification de l'ordre constitutionnel. Il n'est pas clair du tout à cet égard de savoir si c'est la FAC ou une nouvelle force qui sera différente dans ces questions relatives aux prises inconstitutionnelles ou de maintien au pouvoir.
Et justement, Ali Tunkara, cette force aurait, juste comme le disait Niagale, deux dimensions. L'une qui consisterait à lutter contre le terrorisme et l'autre pour restaurer au besoin l'ordre constitutionnel. Est-ce que justement sur ce dernier point, Bamako ne pourrait pas se sentir un peu visé? Comment tout cela est accueilli sur place?
Oui, il semble-t-il, la force, si elle venait à voir le jour, on va quand même assister à une sorte de rétroactivité en termes de loi. Mais fondamentalement, quand on regarde un peu les textes qui régissent même la CDAO, il est clair que tous ces changements brutaux des différents pouvoirs à la suite des coups d'État, qui sont parfois aussi couronnés par des soulèvements populaires, sont entre autres des situations qui ne permettent pas à l'institution qui est la CDAO justement d'atteindre ce objectif en termes de bonne gouvernance. Mais je pense que l'annonce elle est quand même diversement appréciée à Bamako ici. Mais beaucoup de Maliens, en les interrogeant, clairement, ne fondent plus cet espoir à la CDAO. De ce fait, des possibles nouvelles sanctions ou d'une possible création d'une force anti-putsch sont entre autres des aspects qui ne sont pas du tout pris au sérieux par beaucoup de Maliens, par le simple fait que, Dr. Niagale Bayo l'évoquait tantôt, cette force en attente de la CDAO, certes, elle a été théoriquement au chevet du Mali depuis 2012, mais dans la pratique, elle peine quand même à être effective en termes de lutte contre les groupes radicaux violents avec le référentiel musulman. Donc aujourd'hui, il est quand même clair que au regard de l'autorité du Takoukouma, de la force conjointe des 5 Sahel et d'autres initiatives telles que celles appelées initiatives d'Akra, sont entre autres des initiatives malheureusement qui peinent à non seulement stopper l'avancée de la nébuleuse terroriste dans le Sahel, mais dans le même temps, ce sont des initiatives qui sont en grande partie soutenues, voire réfléchies à partir des chancelleries occidentales. Donc toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens ne peuvent pas se permettre de nourrir un quelconque espoir vis-à-vis d'une telle force.
D'accord. Alors, Niagale, la région, comme vous le rappeliez, a connu la force Ecomog, qui est intervenue notamment au Libéria et en Sierra Leone, et même en Côte d'Ivoire. Et plus récemment, des troupes essentiellement sénégalaises sont intervenues en Gambie au nom de la CEDEAO pour installer Adama Barrow. En quoi cette force annoncée à Abuja sera différente? On a aussi à côté l'initiative d'Accra, par exemple. D'où cette nouvelle force va-t-elle tirer sa légitimité?
Donc je répète qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle force, qu'il s'agit de la force en attente de la CEDEAO, qui existe, qui est opérationnelle, mais qui dépend de la volonté des États membres de la sous-région d'y affecter des contingents, qui dépend également des moyens dont disposent ces États membres. Si l'on se souvient bien, en 2012, la CEDEAO a été la première à affirmer vouloir se mobiliser pour intervenir au Mali. Oui. Il y a eu des pourparlers qui ont duré plus de 6 mois, justement au sein du comité d'état-major, qui n'ont jamais abouti, ce qui a ensuite expliqué l'intervention française. Aujourd'hui, la difficulté est, comme vous l'indiquez, et comme le disait M. Tunkara également, que d'une part, la CEDEAO est traversée par une crise de légitimité, notamment parce que son agenda qui visait à créer une CEDEAO des peuples en remplacement d'une CEDEAO des États n'a jamais été mise en œuvre réellement depuis 2007, à la grande déception des populations, et d'autre part parce qu'effectivement cette intervention de 2012 n'a jamais eu lieu et les problèmes notamment logistiques et d'équipement et de moyens financiers de ces États de la CEDEAO n'ont pas été résolus depuis cette époque-là. Donc la CEDEAO devra démontrer ses capacités, mais à mon avis peinera sans doute à le faire.
Est-ce que ce serait pas mieux, Niagale, de séparer un peu les deux, l'aspect lutte contre le terrorisme et peut-être la question de l'ordre constitutionnel, Niagale?
Absolument, et c'est là qu'il y a vraiment une ambiguïté qui va devoir être levée, parce que comme je l'indiquais précédemment, il est question d'une part de la force existante et d'autre part d'une force, donc de la force existante qui serait appelée notamment à conduire des opérations cinétiques de lutte contre le terrorisme, et d'autre part d'une force à créer qui lutterait contre les changements d'ordre non constitutionnel. Il est très important de mentionner aussi que la CEDEAO a d'ores et déjà des instruments censés lutter contre ces prises de pouvoir inconstitutionnelles, notamment à travers son protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et le communiqué rappelle qu'un processus de révision de ce protocole a été lancé. Mais même si l'on doit se réjouir de voir que ce n'est pas le terme de coup d'État qui est utilisé, mais celui de changement inconstitutionnel, ce qui inclut également les manipulations qui peuvent être menées par des régimes civils. On ne voit pas bien les manipulations de constitution. On ne voit pas encore clairement quel type de mécanisme pourrait être activé sur le terrain.
D'accord. Alors, Ali, mais est-ce que vous comprenez tout de même l'argument selon lequel l'instabilité institutionnelle et politique favorise un peu l'expansion du djihadisme? Et si c'est le cas, la création d'une force qui combatte les deux, est-ce qu'elle n'est pas pertinente ici?
C'est vrai que la pertinence, elle va être difficile d'établir de facto, mais ce qui est sûr, au lendemain d'un coup d'État, naturellement, toutes les institutions sont aux abois. De ce fait, les 6 premiers mois d'un coup d'État vont servir une sorte d'aubaine aux groupes radicaux violents de s'ancrer davantage dans les territoires là où ils étaient avant le coup d'État. Donc, pour dire que toute perturbation institutionnelle a forcément des incidences négatives quant aux réponses qui sont en cours en termes de lutte contre les groupes radicaux violents. Mais ce qui apparaît important, lorsqu'on s'efforce à établir un possible lien entre cette force, si elle venait d'avoir les jours, il va plutôt s'occuper à comment réinstaurer l'ordre dans les États qui seraient tentés d'opérer des changements anticonstitutionnels et la force en attente, même si elle est partiellement active en Gambie. Fondamentalement, ce sont quand même deux États, la CEDEAO, qui peinent à s'autofinancer en termes de réponse militaire. S'agissant de contingents de différents pays contributeurs en Gambie, même si le Sénégal a la belle part à cet effet, et de même également les différents contingents de la CEDEAO qui sont au sein de la mission ONU au Mali, sont entre autres de contingents qui ne sont pas forcément supportés par les pays contributeurs. Donc pour dire que lorsque cette question de financement des troupes, cette question du commandement commun, cette question justement d'effectivité des éléments de forte défense et de sécurité ne sont pas entièrement posés par les chefs d'État, et il va de soi que ces différentes déclarations n'aient pas des impacts souhaités. Donc pour dire que c'est vrai, il est extrêmement important que dans une situation d'instabilité politique, il va de soi que le terrorisme gagne du terrain. Mais dans le même temps, les raisons qui sous-tendent cette instabilité, non loin de légitimer, elles sont entre autres aussi toutes ces questions liées à la mauvaise gouvernance, toutes ces questions liées au fait que beaucoup des pays de la CEDEAO sont quand même font l'objet à des interférences. Lesquelles interférences, malheureusement, gonflent les initiatives locales. Prenez le cas du Sahel. Prenez le cas également de l'autorité de Dakar-Gourma, même si l'initiative Dakar apparaît un peu une sorte d'exception. Ce sont entre autres des initiatives malheureusement qui sont réfléchies, qui sont même soutenues par des acteurs qui sont davantage dans une compétition en termes de positionnement géopolitique que dans le groupe radical.
D'accord, on va poursuivre la conversation après la pause, mais j'ai quand même quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il nous dit que ce n'est pas du tout mauvais de penser à la mise en place d'une force régionale pour combattre le djihadisme, mais la question qui se pose est de savoir si ces chefs d'État ouest-africains ont réellement les moyens financiers nécessaires pour mettre en place une telle force, vu la faiblesse de leurs États. Malheureusement, cette future armée sous-régionale ne pourra pas être la réponse à l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest. Il faut veiller au respect de la limitation des mandats présidentiels. Haruna Doumbia est à Bamako. Il écrit cette force anti-coup d'État serait un moteur de la multiplication des coups d'État et des soulèvements populaires. À mon avis, il devrait débattre sur la question de la mauvaise gouvernance des États en proposant des solutions. Et puis Suleiman Ouedraogo à Ouagadougou, il nous dit que lutter d'abord contre le terrorisme, après vous verrez pour le reste. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités sur Skype à Bamako, Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CO3S, et en duplex à Paris, Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Alors, Niagale, comment les pays de la région peuvent-ils combattre, on peut résoudre plutôt ce dilemme, d'une part éviter la dépendance aux forces étrangères occidentales ou russes, et d'autre part assurer leur propre sécurité au moment où la CEDEAO est décriée dans certains pays?
Alors c'est effectivement la question majeure, cette capacité qu'on peut qualifier de souveraine des États de la CEDEAO à assurer leur propre sécurité ou à la financer dans un cadre multilatéral, régional, et non pas dans le cadre d'opérations extérieures ou soutenues par l'extérieur. Il faut se rendre compte que en décembre 2019, donc il y a déjà 3 ans, la CEDEAO avait déjà adopté un plan de lutte contre le terrorisme. Ce plan d'action était chiffré à 1 milliard de dollars et n'a jamais été financé. Et d'ailleurs, le communiqué de la CEDEAO demande à ce que ces financements soient mobilisés de manière impérative. Mais
par les pays membres eux-mêmes,
que c'est toujours par les pays membres eux-mêmes, mais il y a également des dispositions qui appellent encore à la mobilisation des ressources vis-à-vis de l'extérieur, y compris en se tournant vers le président Mahamadou Issoufou, qui est chargé de réfléchir à la lutte contre l'insécurité au Sahel. Tant que cette question du financement indépendant et non pas seulement autonome de la sécurité sur le continent africain ne sera pas réglée, il y aura une très grande fragilité de l'ensemble des dispositifs mis en place. Et pour l'instant, on ne voit pas vraiment de solution arriver. C'est l'une des raisons pour lesquelles le G5 Sahel, notamment, n'a pas pu satisfaire les ambitions qu'il s'était fixées.
Oui, mais en même temps, Ali Tunkara, beaucoup ont souvent dénoncé ce qu'ils considèrent comme un manque de solidarité africaine dans la lutte contre le terrorisme dans les pays frappés comme le Mali. Cette force régionale ne peut-elle pas être un peu un premier pas vers cette solution africaine face aux djihadistes?
Clairement, au-delà d'interférences des pays autres que sahéliens, ce sont parfois ces clichés, préjugés qui rythment le quotidien des pays ou voisins. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'insécurité, lorsqu'on parlait le cas du Mali en 2012 par exemple, ces pays qui l'entourent, en l'occurrence le Burkina Faso, le Niger, même la Mauritanie à certains égards, ne voyaient que le Mali comme le maillot faible, sans pour autant s'interroger sur la possible propagande de cette menace terroriste. Donc les États sont clairement dans ces clichés, de même également côté malien. L'impression qui est dégagée, c'est de dire que voilà, ce sont des pays comme le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie qui dérouleraient le tapis rouge au terrorisme malien. Donc pour dire que au-delà des questions d'interférence, au-delà de ces difficultés qui sont évidentes liées à la mobilisation de ressources financières, les différents États membres de la CEDEAO ont du mal aujourd'hui à s'accorder sur les 107 sans pour autant succomber à ces clichés, sans pour autant succomber parfois à cette épineuse question de financement. Rappelons quand même qu'une guerre coûte très cher. Pour rappel, la France, en son temps au Mali déjà, déboursait pas moins d'un million d'euros par jour. Donc, pour dire que les pays de la CEDEAO aujourd'hui, au regard des difficultés économiques auxquelles ils font l'objet, au regard de ces clichés dont je viens d'évoquer, l'espoir n'est pas tout permis d'assister à la création d'une telle force ou justement à une redynamisation.
Et justement, la CEDEAO veut que cette force soit financée par ses membres. Ça vous paraît réaliste dans le contexte actuel?
Disons plutôt un idéal qui est loin quand même d'être réaliste. Je pense que la CEDEAO...
Ce serait souhaitable quand même, puisque l'indépendance est aussi un peu ça.
C'est un souhait, mais sauf que dans le réel, on se rend compte que toutes ces difficultés dont on vient d'évoquer ne présagent pas un tel financement endogène de la part des États aujourd'hui membres de la CEDEAO. De même, au-delà de cette insuffisance de solidarité collective vis-à-vis des pays en proie aux attaques terroristes et même aux conflits locaux, quand on regarde quand même les pays frontaliers tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays peinent déjà à conduire des opérations communes pour des raisons parfois géopolitiques. Donc pour dire que lorsque ces questions justement aussi basiques en termes de solidarité communautaire, des questions aussi basiques en termes de dépassement des clichés n'ont pas d'éléments de réponse probants, il va être très difficile qu'on arrive à l'effectivité d'un financement qui pourrait parvenir des pays membres aujourd'hui.
Alors, Niagalé, on a vu, par exemple, dans l'est de la RDC, en Somalie et en Afrique de l'Ouest, les pays tentent un peu de se substituer au casque bleu, peut-être, ou en tout cas essayent d'offrir une alternative. Que faut-il pour que ces forces régionales arrivent à jouer le rôle vraiment qu'on attend d'eux?
Alors, il y a différents exemples. Il y a un exemple dont on parle peu, c'est celui de la force multinationale mixte, qui est une force qui a été mise sur pied pour lutter contre les groupes ex-Boko Haram ou affiliés à Boko Haram, et qui réunit le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, avec un dispositif flexible auquel s'associe parfois le Bénin, et qui a obtenu un certain nombre de résultats. Cette force est rattachée à la communauté du bassin du lac Tchad. Et elle a plutôt bien fonctionné, en tout cas pas plus mal fonctionné que les dispositifs très lourds déployés par les acteurs internationaux, qu'il s'agisse des partenaires bilatéraux comme la France ou des Nations Unies. Mais ce qu'il faut savoir, et il est très important de le mentionner, c'est que les forces des pays africains ou ouest-africains sont souvent déployés précisément dans ces missions onusiennes. Les plus gros effectifs actuellement de la MINUSMA sont des forces qui appartiennent à la sous-région. Enfin, en tout cas, depuis le début de la force de la MINUSMA, ce sont les contributions ouest-africaines qui ont été parmi les plus importantes. Mais aujourd'hui, il y a cette question de l'autonomisation et une solution qui est envisagée également, mais qui ne pourra pas fonctionner sans le soutien extérieur, c'est celui d'une force de type AMISOM, qui était cette fameuse mission sous l'égide de l'Union africaine, qui a été déployée avec certains résultats en Somalie dans le cadre d'un financement de l'Union européenne. Mais l'on voit encore que le rôle des partenaires extérieurs resterait absolument central dans ce type d'arrangement.
Et vous, Ali Tonkala, sur cette question, le rôle des forces régionales pour peut-être un jour se substituer au casque bleu?
Il faut être quand même réaliste de l'analyse. C'est vrai que l'idéal serait que les Nations Unies acceptent d'apporter un soutien désintéressé à ces forces sous-régionales. Mais le problème qui se pose concrètement à ces pays membres de la CEDEAO, à comment se soustraire de ces compétitions parfois très violentes auxquelles les puissances économiques et militaires font l'objet. Le fond du problème, il est là. On n'a pas besoin de passer par les collègues pour se rendre à l'évident. Dans le contexte somalien, par exemple, rien n'empêche aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies de responsabiliser, par exemple, l'Union africaine au nom même justement de cette solidarité collective. Mais malheureusement, toutes ces initiatives qui allaient dans ce sens depuis 2012, pour le cas de la crise malienne, justement, n'ont pas pu permettre d'arriver à des résultats importants. Donc, pour dire que les chefs d'État de la CEDEAO, malheureusement, pèsent très peu dans ces jeux géopolitiques et stratégiques dans le monde.
Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.